Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Canto-Sperber. L'art, l'engagement et le bien, le cas Marc Rothko avec Annie Cohen-Solal. J'aimerais trouver un moyen d'indiquer les vrais engagements de mon existence. Et je pense alors pouvoir dire qu'en présence de mes peintures, mes préoccupations sont essentiellement morales et peu engagées dans l'esthétique. C'est ainsi que s'exprime Marc Rothko, peintre abstrait américain, dans ses écrits sur l'art datés de 1954. Que signifient ces formules, rapportées à la peinture en général, mais surtout lorsqu'il s'agit de peintures abstraites si caractéristiques de l'époque contemporaine? Ces questions sont au cœur de cette émission de questions d'éthique consacrée à Marc Rothko. Elles se retrouveront dans plusieurs autres qui porteront sur la destination morale de l'art. Merci Annie Cohen-Solal. Au moment où vous publiez chez Actes Sud ce livre extrêmement intéressant, Marc Rothko, merci d'avoir répondu à notre invitation. Rothko est une personnalité exceptionnelle. Il est né en 1903, mort en 1970, et il a, d'une certaine manière, par sa réflexion, créé une exigence nouvelle dans l'art contemporain.
Rothko, d'abord, c'est un artiste, c'est aussi un intellectuel, c'est un philosophe, c'est un homme engagé, qui porte avec lui toute l'histoire des Juifs d'Europe. Il la porte dans sa réflexion et il la porte dans son action.
Juifs d'Europe aux États-Unis, immigré aux États-Unis. Parce que
oui, il naît dans ce qu'on appelait en anglais the Pale of Settlement, la zone de résidence réservée aux Juifs dans l'Empire russe, et il va émigrer aux États-Unis à l'âge de 10 ans.
Juste avant la guerre de 14.
Voilà. Il part avec sa mère et sa sœur. Il rejoint de la famille, d'abord en bateau, de la famille près de New York, et puis après, en train, il traverse les États-Unis pour aller vers Portland, Oregon, où se trouve son oncle, voilà, pour rejoindre son père qui était parti un an en avance. Alors, ce qui est très intéressant dans ce parcours, c'est que ce petit garçon qui va partir avec sa mère et sa sœur pour les États-Unis et traverser les États-Unis sans parler un mot d'anglais, il aura autour du cou une pancarte qui dira « I don't speak English ». Et il expliquera à son ami Motherwell « C'était peut-être la chose la plus dure de ma vie, d'être habillé comme un petit enfant de Dvinsk en noir ». Avec cette pancarte qui disait « je ne parle pas l'anglais ». Voilà. Donc, il rencontre par là de la douleur d'un exilé, en fait, je veux dire.
Mais que porte-t-il du judaïsme à ce moment-là? Parce que sa famille était une famille relativement émancipée, ouverte aux idées modernes, mais lui a eu une éducation particulière.
Pourquoi le père de Rothko, il est né dans un shtetl, donc dans un village, à la frontière lituanienne, entre la Lituanie et la Lettonie en ce moment. Le père va étudier la pharmacie à Saint-Pétersbourg, rencontrer une femme juive d'une famille émancipée qui parle allemand et avoir une trajectoire complètement séculière. C'est le pharmacien de Dvinsk, c'est aussi l'écrivain public de la ville et c'est un homme qui ne va pas à la synagogue. Mais avec l'accélération des pogroms qui se rapprochent de plus en plus de la ville de Dvinsk, avec le fait que ses deux fils aînés sont pris dans la conscription de l'armée russe, et ses deux fils aînés étaient dans une école non religieuse, ainsi que la fille. Donc il y avait trois enfants plus âgés que le petit Marcus, Marcus Rothkovitch. Pourquoi, pour le plus jeune des quatre enfants, le père, qui est un homme de la Haskalah, de la Renaissance juive, va-t-il mettre le plus jeune de ses enfants dans un Talmud Torah, qui est une école religieuse, où les enfants de l'âge de 3 ans étudient le Talmud toute la journée? Pourquoi? Il semble que ce soit une manière de se rapprocher de sa communauté à un moment où la communauté est en danger.
c'est compliqué parce qu'il souhaite partir également.
Voilà,
et
c'est ça.
Dès ce moment-là, il voit l'exil comme la seule possibilité.
Voilà, donc l'enfant, c'est le seul de sa famille qui va être le destinataire de cette relation avec la Torah. Donc il est isolé dans sa famille, ce petit garçon. On le voit sur les photos. C'est un enfant extrêmement sérieux qui ne sourit jamais à l'appareil, qui est enfermé dans sa pensée. Et même quand ils arrivent aux États-Unis, le père va mourir très très vite. L'enfant, le petit Marcus Rotkovitch, est le seul qu'on envoie dire le kaddish, la prière pour les morts, pendant un an à la synagogue pour rappeler la mémoire de son père. Donc il porte cet enfant-là, il porte toute la relation de sa famille à la religion de manière isolée. C'est très particulier.
Mais en même temps, c'est un petit enfant extrêmement doué, très ouvert, très curieux du monde, qui va très bien réussir dans le Lincoln High School, c'est-à-dire le lycée public américain,
voilà,
où on le place parce qu'il est extrêmement vif intellectuellement et tout
oui.
L'intéresse. Jusqu'à obtenir un scholarship pour Yale, ce qui est quand même extraordinaire. Et dès ce moment-là, il est très engagé dans toutes sortes de causes communes.
Voilà, et dès qu'il y a un problème avec une institution, ça se passe à la fois dans l'Oregon et ça se passe à la fois à Yale. Il va prendre la plume et écrire et se battre. Donc, il sait avec les mots comment réagir contre les institutions. Quand il arrive à Yale, il arrive à une période où il y a un numerus clausus, parce que le doyen dit, l'élément juif arrive.
1921, c'est le moment, voilà, où les États-Unis se rétractent sur eux-mêmes.
Voilà, l'élément juif arrive à une vitesse grand V. Nous devons bloquer l'arrivée de l'élément juif parce que tous les petits juifs prennent tous les prix. Donc le petit Roscoe qui adore le livre, qui adore l'étude, qui sait que c'est comme ça qu'il arrivera, se rend compte que cette institution qu'il avait mythifiée auparavant ne s'intéresse qu'aux sportifs et aux fils de famille WASP.
Oui, il est rejeté de toutes les fraternités.
Voilà,
il y avait très peu de juifs admis et de toute la vie sociale qui fait le cœur de la vie universitaire.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des classes sociales dans le monde juif. Il y a les juifs allemands, qui sont les grands bourgeois, qui sont les collectionneurs et qui pénètrent dans ces fraternités. Il y a les juifs austro-hongrois, qui sont les intellectuels, les critiques littéraires, on va les trouver, les critiques artistiques ou les galéristes. Et puis, il y a les autres, que sont les juifs polonais et les juifs russes, et qui sont à la fois aidés par la philanthropie des juifs allemands et en même temps dans une relation difficile, d'un peu, quelquefois, d'arrogance de la part des juifs allemands.
À ce moment-là, rien ne le destine à la peinture. Comment se fait le choc ? Comment comprend-il qu'il a quelque chose à dire dans ce domaine-là, essentiellement ?
Voilà. Donc, quand il se sent rejeté par Yale, il va travailler avec sa famille à New York, dans ce qu'on appelle le Schmattes Business, dans le textile. Et c'est un jour, par le plus grand des hasards, où il voit un atelier d'artiste. Il va voir un copain, il voit des gens qui dessinent un nu. Et il dit, voilà, c'est là que je vais trouver ma voie. Il commence à travailler, il a des professeurs très intéressants, il travaille avec des professeurs. Et peu à peu, il va... Si vous voulez, quand on entre dans le monde de l'art, il y a deux trajectoires pour se former à l'art. Soit on est dans une famille cultivée qui vous emmène au musée, ce qui n'était pas le cas de Roscoe, soit qu'on est très très doué, draftsman pour le dessin. Ce n'était pas non plus le cas de Roscoe. Lui... En fait, il donne crédit à ma thèse, où je m'intéresse au statut social de l'artiste, la fonction sociale de l'artiste. Et précisément, il va vers l'art pour trouver une identité sociale, pour trouver une place dans la société américaine. Et en fait, il va le faire par l'intermédiaire de très nombreuses pétitions, de très nombreuses interventions, de très nombreux articles. Il va, par rapport contre les institutions américaines qu'il trouve extrêmement guindées, bloquées. Et c'est par l'art, on en parlera beaucoup plus tard, qu'il va s'inscrire dans la société.
Mais ce qui est frappant, c'est la rencontre avec Milton Avery est véritablement décisive, ce peintre qui vit à New York. Mais dès ce moment-là, pour lui, cet accès à une voix, une voix qui porte un message de l'art, se constitue à l'intérieur d'un groupe. Il est toujours avec des amis, ceux qu'il rencontre à ce moment-là et qui vont rester tout le temps avec lui jusqu'à la période très très sombre des dernières années de sa vie. Adolf Gottlieb, Barnett Newman, Louis Schenker, aussi.
C'est presque tous des juifs.
Ces groupes,
The Group of the Ten.
Et, beaucoup viennent d'Europe, évidemment.
Oui, c'est vrai.
Et ces groupes se retrouvent régulièrement au cours de sa carrière. Le groupe d'Étienne, qui n'était que neuf, évidemment. Mmh. Et puis ensuite, le groupe des artistes en colère. Mmh. C'est une configuration qu'on revoit assez souvent. Il trouve sa voix au sein d'un groupe.
C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et il est d'ailleurs le porte-parole de ces groupes. Il va devenir celui qui exprime le mieux la rébellion de l'individu contre les institutions.
Mais à un moment, il décide de devenir américain et change de nom.
Oui.
Et on parle de son nom qui était comme de Marcus Roskowitz à Mark Rothko.
Alors, ce qui est amusant, c'est que ses frères ont pris le nom de Roth. Et lui, sur le conseil d'un ami, il a choisi Mark Rothko, qui est plus assimilé, je dirais. C'est intéressant.
Mais sa peinture arrive en plein moment de la prise de conscience américaine que un art moderne est possible aux États-Unis, qui ne soit pas simplement la copie de l'art européen.
Voilà, les années
30. Comment contribue-t-il à cela ?
Les années 30, c'est un moment crucial parce que il y a deux mouvements qui vont se coexister aux États-Unis. Les années 30, c'est à la fois les modernistes européens qui sont amenés aux États-Unis par l'art Mauritius en 1913 et qui sont portés par le MoMA d'Alfred Barr à partir de 1929. Bon. Et il y a le deuxième mouvement qui est un mouvement régionaliste américain qui se développe grâce au programme du président Wilson, qui est le premier programme fédéral qui soutient l'artiste et sur le modèle de la révolution mexicaine, marxiste mexicaine du président Obregón, où l'artiste va devenir un citoyen actif pour l'État fédéral. Donc, à cette période où les deux mouvements se mettent en place, le mouvement moderniste et le mouvement régionaliste, Rothko se trouve entre les deux. Et il va être, avec ses autres amis juifs émigrés d'Europe, un vecteur entre les deux groupes, entre les modernistes européens d'un côté et les régionalistes américains de l'autre. Ils vont avoir une fonction très très importante de vecteur.
Alors, les textes que vous citez sont vraiment passionnants. Le texte de William Glackens de cette époque, écrit peu de temps après le Art Mauritius Show de 1913, mais qui vaut aussi bien pour 10 ans après. Tout ce qui est valable dans l'art américain est dû à l'influence de l'art français. Ça, c'est le point de départ. Mm-hmm. Nous n'avons pas encore été capables de produire un art national, mais j'ai l'espoir d'une renaissance de l'art américain. J'en vois partout les signes. Cette exposition qui arrive à un moment psychologique propice va nous faire énormément de bien. Peut-être notre pays n'a-t-il pas encore eu le temps pour l'art et notre respect excessif pour l'argent nous a-t-il handicapé dans ce domaine ? Mais si nous parvenons à inoculer notre énergie dans l'art, je sais qu'un jour nous serons les maîtres du monde. Mais c'est étonnant, ça a été écrit il y a un siècle.
Incroyable, c'est incroyable. Ah oui, les États-Unis doutent énormément. C'est un pays dans lequel l'artiste, j'ai essayé de le montrer dans d'autres livres, était un paria, enfin. C'est un pays dans lequel la place de l'artiste a dû être conquise à la force du poignet. C'est un le pays protestant dans lequel à la fois les pionniers et les banquiers considèrent l'artiste comme un citoyen de second ordre. L'artiste n'était pas celui qui était viril avec un fusil, n'était pas celui qui gagnait de l'argent, c'était un homme efféminé qu'on méprisait un peu. Il a fallu, et donc cette génération-là va contribuer à inscrire l'artiste dans une nécessité pour la société américaine.
Et Rothko est sans doute celui qui, parmi ces groupes, portera véritablement une voix qui va au-delà même de la voix qui exprime une force sociale, mais qui exprimera également un engagement profond de l'artiste, sa contribution à une forme de découverte du bien
éthique,
aussi.
Tout à fait.
Alors, on connaît bien les 20 dernières années, le moment où Rothko passe à l'abstraction, on connaît moins bien ses phases antérieures. Mm-hmm. Mais il y a eu une véritable évolution artistique depuis une peinture figurative, ses débuts, en passant par différentes étapes, même le surréalisme et jusqu'à l'abstraction.
C'est tout à fait unique, cette évolution esthétique d'un artiste. Et alors moi, je la mets en rapport avec le contexte, évidemment. Parce que si on parle d'une question de palette ou d'une question de couleur, je pense qu'on passe complètement à côté. En 1940, donc Rothko va d'abord avoir une peinture figurative un peu expressionniste, genre à la Soutine, avec des personnages un peu torturés, déformés. Bon. En 1940, il pose son pinceau pour écrire un livre. Il ne peut plus peindre.
Un an sans peindre. En plein début de création. C'est quand même extraordinaire.
Et en plein début de Deuxième Guerre mondiale. Hein, je veux dire. Il faut voir ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique dans son Europe natale. Hein. Pendant un an, il pose la plume. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il revisite toutes les périodes historiques et toutes les périodes géographiques en se demandant à quel moment existait un âge d'or pour l'artiste. Et il a la nostalgie de cet âge d'or. Il réfléchit, mais comme un philosophe, comme un historien, comme un anthropologue, à comprendre la fonction de l'artiste dans la Grèce de Périclès, dans l'Italie de la Renaissance, dans la France du 19e. Et il se dit pourquoi chez nous, aux États-Unis, cet âge d'or n'existe pas. Et il va travailler sur la fonction du mythe dans la société occidentale, et il va travailler sur la dissolution des mythes et la manière que l'artiste a de peut-être rester le seul, le dernier, à pouvoir compenser cette absence de mythe. Et donc il va construire l'artiste comme un prophète, avec une mission, la mission de sauver le monde, la mission de cette quête de l'unité pour dépasser l'histoire. Et en fait, qui est très très lié avec tout son apprentissage philosophique juif. Ce qui est étonnant, c'est que on a vu tout à l'heure que c'est le seul de la famille qui ait été dire le Kaddish pour son père, la prière des morts pour son père pendant un an, à la synagogue de Portland, Oregon. Après cette année de prière, il ne remettra plus jamais les pieds dans une synagogue. Pourtant, on peut voir dans sa pratique professionnelle une réincarnation de toute sa force, de son imprégnation, de cette formation philosophique.
Vous citez un extrait de Léo Steinberg, à lequel vous revenez assez régulièrement. Je me permets de le
C'était un monsieur merveilleux que j'ai connu, qui était une merveille.
Mais qui explique fort bien cette intuition. Le judaïsme a survécu comme une nation abstraite, donc c'est écrit en 1957, et a prouvé, comme l'a fait l'art moderne, l'ampleur de ce qui était inutile et vain. J'ajouterai aussi que, comme l'art moderne, les pratiques religieuses juives sont remarquablement dépourvues de représentation, et si j'ai dit plus haut qu'il est difficile de devenir un peintre moderne, il est aussi un vieux proverbe juif qui rend compte de cette vérité. Cela peut également expliquer pourquoi autant de jeunes juifs trouvent si facilement leur voie dans l'art moderne. Ça, on touche là à la représentation et à ce que signifie la possibilité, dans d'autres textes, Steinberg le dit, de transposer en quelque sorte le temple dans la Torah. De même qu'on quitte la figuration pour la concentrer dans quelque chose de beaucoup plus essentiel.
Oui, c'est exactement ça. Donc pendant 10 ans, de 1940 à 1950, à la suite de cette année d'arrêt et de réflexion, il reprend son pinceau. Il aura une phase mythologique, une phase surréaliste, une phase multiforme et une phase abstraite. Et en 1950, on a ces grandes masses de couleurs qui semblent flotter les unes au-dessus des autres, qui est sa signature, parce que les toiles de Roscoe se reconnaissent partout dans le monde. C'est un peintre qui est signé, je veux dire. Mais alors, c'est bien au-delà. Au moment même, moi j'étais dimanche après-midi dans une ville qui s'appelle Ostrowice, en Pologne, à l'ouest de Cracovie. Et en allemand, c'est Auschwitz. J'ai compris quelque chose hier, là-bas, que je n'avais jamais compris avant, autour de Roscoe. C'est-à-dire que la peinture de Roscoe va évoluer vers le silence, en fait, le silence. Et c'est vrai que cette évolution esthétique, elle a lieu très précisément pendant cette période historique, dans laquelle le peuple juif paye si cher. C'est étonnant.
Et Roscoe le portera dans sa chair, puisque lui-même va peu à peu être de plus en plus isolé. Et au moment où il aura du succès, où sa peinture sera reconnue, et il faudra sacrifier un système de reconnaissance sociale avec tout ce que ça a artificiel, eh bien, il l'éprouvera comme une forme de condamnation de soi, et qui finira par son suicide. Alors, sur cette thématique, ces différentes sources d'inspiration, je voudrais citer un texte sur lequel vous revenez également, de Roscoe lui-même. « Je me dispute avec l'art surréaliste et avec l'art abstrait, comme on se dispute avec un père et une mère. L'art surréaliste a découvert le glossaire du mythe et a établi une congruité entre la fantasmagorie de l'inconscient et les objets de la vie quotidienne. Cette congruité constitue l'expérience tragique et exaltée qui, pour moi, est le seul livre source de l'art. »
Oui, c'est magnifique cette citation.
Cela veut dire que, d'une certaine manière, et d'autres textes de Roscoe le reprennent, il y a en l'artiste une capacité d'expression, une sorte de travail sur la subjectivité, même l'intersubjectivité, auquel sera donnée forme dans cette quête qui est le signe de la création artistique.
Oui, 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 oui. Et au-delà de ça, cette réparation du monde, hein, comme avec la traduction hébraïque, le tikkun ha'olam. Hein. On a l'impression que malgré sa très grande sécularisation, malgré son travail politique contre les institutions, son travail artistique est plein de cette philosophie juive. Une des choses qui m'intéresse aussi énormément, c'est que, je ne sais pas si vous êtes allé à la Tate Gallery à Londres, où il y a 4 ou 5 grandes salles Marc Roscoe. Au début, les conservateurs ont expliqué que la palette de Roscoe va de plus en plus vers le sombre, en expliquant qu'il tente de faire ça pour attaquer les critiques qui disent que sa peinture est décorative, sa peinture est belle et décorative. Il me semble que c'est une expression un peu sommaire et que l'évolution de Rothko dans les 20 dernières années de son abstraction a beaucoup plus à voir avec autre chose qu'avec une évolution de palette vers le gris et le noir. En fait, il va chercher un médium, il va chercher une construction chimique de sa peinture, la peinture qu'il va appliquer sur ses tableaux, extrêmement complexe, qui a à voir avec la peinture à l'œuf qu'utilisaient Piero della Francesca et Lorenzetti, hein, sur les fresques de la Renaissance, qui est une peinture transparente, avec des couleurs très translucides, qu'on applique avec des couches superposées, mélangées un peu avec de l'acrylique, et pour construire une matière phosphorescente qui attire l'œil du spectateur de telle manière qu'on ne peut plus s'en détacher. Je ne sais pas si vous avez remarqué que quand on entre dans une salle, il était extrêmement exigeant. Il exigeait que ses tableaux fussent pendus, accrochés sur un mur off-white, qui n'était pas blanc, mais blanc cassé, qu'ils fussent très bas, très peu éclairés, de telle manière que ce qu'il avait inventé, c'était non pas des tableaux qu'on devait voir, mais une expérience avec un public. Il voulait construire, révolutionner la relation entre l'artiste et le public. Il exigeait qu'il y eut plusieurs tableaux dans une même salle. Donc c'était quelque chose de beaucoup plus complexe qu'une véritable expérience superficielle. C'était une expérience spirituelle.
Alors, il ne s'agissait pas de vendre des tableaux pour lui, mais vraiment de construire un monde et de construire la dimension d'une expérience, d'une relation avec le spectateur, enfin le contemplateur, qui sera tout à fait singulière. Il dit d'ailleurs qu'il ne veut pas laisser ses tableaux circuler dans le monde sans pouvoir avoir un droit de regard, c'est ce qui leur arrive. Donc c'est cette espèce de responsabilité infinie à l'égard de ce qui a été créé.
Absolument, absolument. Non, c'est un personnage... c'était bouleversant pour moi de travailler sur ce personnage sans du tout l'avoir cherché. Et vous voyez, de nombreuses personnes me disent « c'est mon peintre préféré ». Et en même temps, ils se sont rendus compte, vous vous souvenez de cette très belle exposition du Musée d'art moderne de la ville de Paris en 1999, Jean-Louis Andral et Suzanne Paget. Il y avait des queues, je me souviens, des queues absolument infinies devant et les gens qui recopiaient les textes de Roscoe écrits dans la petite salle longue, etc. Et c'est vrai que avec les toiles de Roscoe, ce sont des toiles qu'on ne peut pas voir, qu'on peut voir sur un livre ou par Internet, mais tout est changé quand on est en présence de la toile. C'est comme une interaction avec un être humain. Et c'est vrai que cet homme s'est battu, si vous voulez, vous décriviez très bien tout à l'heure la relation mercantile, la relation du marché qui ne le satisfaisait pas. À une époque de sa vie, en 1960, 58, on lui propose de décorer un restaurant,
Four Seasons,
dans le plus beau building, le plus cher, le plus luxueux, dans le restaurant le plus luxueux du monde. C'est Park Avenue and 50th Street, International Style de Philip Johnson, l'architecte. Et là, il fait le travail, il est payé, il achète un immense studio et il commence à travailler. Bon. Et puis, il part en Angleterre, passer l'été en Europe. Il adore l'Europe, il est surtout l'Italie et puis l'Angleterre. Il va se trouver en Cornouailles, dans un petit groupe d'artistes. Ça, c'est une trouvaille que j'ai faite dans une galerie de Londres, Whitechapel Gallery, dans une petite communauté d'artistes à St. Ives, des gens qui l'admiraient. Et ces gens travaillaient comme à Pont-Aven, auprès de mythes celtiques qui vont loin dans le passé, bien avant l'ère chrétienne. Et là, Rosco se sent dans une convivialité, puisqu'il aimait le groupe, il se fonctionnait bien dans le groupe. Et puis un jour, il voit une église médiévale en ruine, et il dit « Mais c'est là que j'ai envie que soient mes œuvres. » Puis il rentre aux États-Unis, on le fait dîner dans ce nouveau restaurant luxueux, il dit « Il est absolument impossible pour moi que ces milliardaires ridicules s'empiffrent devant mes tableaux. » Il rend l'argent, il reprend ses œuvres. Et c'est là qu'une autre partie de sa carrière va se mettre en place, qui est magnifique.
Avec la chapelle Rothko, puisque voilà. ces fresques finiront à la chapelle Rothko des Dominils à Houston. Alors, voici sur cette traduction de ce qu'est cette expérience si singulière de la création. Un extrait de la correspondance avec Clay Spoon. Je commence à haïr la vie de peintre. On commence par s'entraîner avec ce qui est à l'intérieur de soi, en gardant encore un pied dans le monde normal. Puis tu es pris dans une frénésie qui t'emporte au sommet de la folie, aussi loin que tu puisses aller sans jamais revenir. Le retour est une suite de semaines hébétées pendant lesquelles tu n'es qu'à moitié vivant. C'est l'histoire de mon année. On pourrait dire que c'est l'histoire de ce qui va peu à peu se refermer comme un destin sur lui, jusqu'à ces moments assez énigmatiques de sa vie.
Oui, son fils, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, Christopher Rosco, qui avait 4 ans quand son père est mort, m'a demandé « Mais comment tu vas traiter le suicide ?» très, très, très fréquemment pendant mon travail. Je lui disais « Mais j'en ai aucune idée. » Et c'est vrai que ça me mettait assez mal à l'aise. Parce que c'est vrai que vivre avec un individu qui est comme ça, grumpy, grincheux, bon... Et puis, à la fin, j'ai trouvé des archives dans la Fondation de Ménil à Houston qui appartenaient à Motherwell, qui sont des textes de son ami Motherwell, le peintre. Et dans ces textes, Motherwell racontait que, vers la fin de sa vie, Rosco faisait venir ses amis dans son atelier, mais cachait, camouflait absolument tous les signes de son travail, et les pinceaux, et les peintures, de telle manière qu'on ne voit pas comment il fabriquait son médium. Et puis aussi qu'à la fin de sa vie, Rosco avait fait une fête, quelques mois avant de mourir, dans son atelier. Il était au centre d'un cercle constitué par ses tableaux. Et Motherwell explique qu'il a eu l'impression que c'était un geste totémique, et que ses tableaux étaient totémiques, et qu'en fait, ses secrets de fabrication étaient pour lui ses emblèmes qui le protégeaient contre les terreurs du monde. Parce que si... on les découvrait, il en mourrait.
Et qu'il détenait la clé et le secret de l'expression.
Voilà. Donc, moi, je me suis arrêtée là, sans décrire comment il s'est entaillé les veines, qui me semblait vraiment de l'ordre de la sensiblerie, qui n'avait rien à voir avec son projet. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai arrêté de manière un peu abrupte ce livre, pour essayer de restituer à l'artiste son mystère, sa force, son projet, qui est... phénoménal, puisque c'est grâce à Dominique de Ménil, cette femme née à Paris, Dominique Schlumberger, à la fois héritière d'une immense fortune, mais en même temps extrêmement radicale, que ses œuvres sont visibles dans le lieu le plus œcuménique au monde, visité par Martin Luther King, par Nelson Mandela, etc. Et ce sont les dernières fresques de Rosco dans l'endroit où il aurait voulu les voir. Il ne les a pas vues parce qu'il est mort un an avant.
Pour nous, l'art est une aventure dans un monde inconnu. Que seuls ceux qui veulent prendre des risques peuvent explorer. C'est la destination de l'artiste. Merci à Annie Cohen-Solal pour cet entretien. Merci à François Connac qui a réalisé cette émission. Merci à Jean-Richard Dufour qui était à la technique. La semaine prochaine, nous parlerons de la ville, avec Olivier Mongin, la ville des flux. Quelles questions morales peuvent se poser? Quel type de normativité? Quel bien? Quel mal? Thank you. n'oubliez pas, juste un instant, Marie Richeux pour pas la peine de crier. Et j'espère vous retrouver jeudi prochain. D'ici là, très bonne semaine à tous.